Quartier Libre, le retour sur Fréquence Sillée. Et puis retour aujourd'hui avec cette histoire de Sainte-Suzanne qui nous occupe depuis quelques semaines sur Fréquence Sillée dans Quartier Libre, avec aujourd'hui des jeunes de 5e qui sont allés à Sainte-Suzanne et qui vont nous parler aujourd'hui de la ville médiévale. Autour de la table, il y a Enzo, Gabriel, Lucille, Lindsay, Étienne, Achille, Emmanuel. Bonjour tout le monde.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Emmanuel, je te passe la parole.
Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons donc parler de la ville médiévale, de savoir comment elle était un petit peu construite, formée, tout ça. Et j'ai quelques questions que je vous ai mis de côté. Donc, je voudrais savoir déjà si quelqu'un peut me dire comment était organisée une ville au Moyen-Âge.
Bah, à peu près au centre, il y avait le château. Autour, il y avait la ville. Et puis, après, il y a des gens. Et plus loin, la campagne.
Et après, il y a des gens.
Bah,
ils sont posés comme ça, les gens.
Non, les champs.
Ah, les champs.
Ah, les champs, oui.
D'accord.
Et la plupart du temps, bah, dans les villes médiévales, il y avait entre 5 000 et 10 000 habitants au fur et à mesure de la taille des villages.
Oui, parce que c'était quand même déjà des bonnes villes. Donc, il y avait pas mal de maisons, j'imagine.
Oui, je pense.
Elles étaient en quoi, les maisons, d'ailleurs? Est-ce que vous savez? Oui, tiens, vas-y.
Elles étaient en pierre.
En pierre, ouais.
Alors, oui. Peut-être tout dépend de l'époque. Pour oui, Sainte-Suzanne, effectivement, en pierre.
Puis, le toit, il était en chaume.
Les premiers toits étaient en chaume, mais après, les choses ont évolué au fur et à mesure du Moyen-Âge, parce que je vous rappelle que c'est quand même une grande période. Donc, on commence avec des toits de chaume, et puis on finit avec des toits en ardoise. À Sainte-Suzanne, on est déjà dans la pierre. Et avant, tout à l'heure, tu m'as parlé d'une construction qui était
Les premiers châteaux forts, ils étaient en bois. Petit à petit, ça a évolué, et après, ça finit en pierre.
D'accord. En fait, donc, si je ne m'abuse, c'est à partir du XIe siècle qu'on commence à utiliser la pierre.
L'INSEE, peut-être, qui voulait dire quelque chose?
Eh bien, pour faire tenir les pierres l'une entre elles, on prenait du torchis. C'était une pâte, ou du béton, on peut l'appeler comme on veut. Une pâte composée d'eau, d'argile et de fil naturel. Donc, il y avait le crin de cheval, le foin et la paille.
D'accord. Ça, en fait, c'était pas trop pour coller, si je ne m'abuse, c'était plutôt pour recouvrir les pierres, pour leur donner un aspect lisse.
Ah, il y avait deux usages.
D'accord.
Puis aussi, on est passé à la pierre parce qu'avant, bah, quand les villages se faisaient attaquer, vu que c'était en bois, c'était trop facile à brûler et puis à piller les récoltes bah, des villages ennemis.
Et oui, tout à fait. Tout à fait. Il fallait pouvoir se protéger.
Les villes sont étroites et sales, avec tous les déchets par terre. Mmh. Et elles étaient souvent situées à côté des cours d'eau navigables pour la pêche ou pour le transport de cargaison.
Et si, par exemple, si les villes, si les, pardon, les, entre les maisons, c'était sale, par exemple, c'était parce que les gens qui avaient leur maison, par exemple, eh ben, ils jetaient tout de suite leur saleté tout de suite dans la rue.
Les eaux usées, en fait, il n'y avait pas de recyclage, oui. On n'avait pas d'évacuation d'eau comme aujourd'hui.
Ça ne faisait pas sentir très bon, ma foi.
Il valait mieux éviter de se promener dans les ruelles sans vérifier auparavant ce qui s'y passait.
Alors, autre question, peut-être?
Alors, quelqu'un peut-il me dire pourquoi la ville médiévale était située en hauteur?
La ville médiévale était située en hauteur pour mieux apercevoir les ennemis arrivés et c'est tout.
Encore une histoire de défense, en fait, pour se protéger?
Oui.
Vous voulez rajouter quelque chose?
Il l'a dit.
Ça y est, c'est dit?
C'est dit, rien d'autre à ajouter sur cette question, non?
Si, ils jetaient aussi pour que les ennemis mettent plus de temps à arriver et jetaient les choses pour les empêcher de venir.
Eh oui.
Et est-ce que quelqu'un peut me dire de quoi était entourée cette ville et pourquoi?
Il y avait les remparts qui protégeaient la ville avec les seigneurs. Entre les remparts et la campagne, il y avait la ville avec les plus pauvres. Les plus pauvres dedans.
Mmh. Est-ce qu'à Sainte-Suzanne, on retrouve ce genre de ville, des remparts? Parce que moi, je ne suis pas allé, mais racontez un petit peu comment c'est Sainte-Suzanne. Qu'est-ce que vous avez vu qui remarquait le Moyen-Âge?
On retrouve des éléments, par exemple le logis, le puits, il y a le grenier à sel, le donjon, la muraille, les tours, la prison.
Ok, oui, alors...
Il y a la cour aussi et les remparts.
La ville n'est plus du tout comme avant, parce qu'elle a été mise...
À l'extérieur du château?
Oui, exactement. Il y avait les maisons, elles sont plus... volumineuses et elles n'étaient pas en pierre, enfin pas forcément en pierre. Maintenant, il y a plus, il y a plus de fenêtres et les toits sont en tuiles.
Ah, tu voulais dire quelque chose
Non, on a tout pris, qu'est-ce que je voulais dire?
Ah, alors.
Enzo, alors.
Et pour le grenier à sel aussi, il y avait trois clés pour l'ouvrir. Il fallait tourner les trois clés en même temps. Et c'était souvent trois seigneurs différents qui les avaient.
Alors, on avait vu la dernière fois dans l'émission que le sel servait à quelque chose de particulier. Alors, est-ce que vous avez vu ça un petit peu? Oui, vas-y.
Alors, le sel, ça sert à conserver les aliments. Donc, c'était pour ça qu'il était très précieux.
Ouais, ouais. C'est ce qu'on avait vu la dernière fois.
Tout à fait. Et puis, je crois que Lindsay, tu avais une info aussi à nous donner sur un élément dont on n'a pas parlé dans l'architecture médiévale. Qu'est-ce qu'on trouvait également parfois, pas tout le temps, mais parfois
Souvent, autour des châteaux, il y avait les clochers. Et au-dessus des clochers, il y avait un beffroi. En fait, c'était un assemblage de charpentes qui va permettre de supporter le poids des cloches et de les faire bouger pour prévenir il était quelle heure ou s'il y avait un événement.
Une sorte d'alarme, en fait, géante. Mmh. Super. Eh bien, je crois qu'on va, passer à la petite musique médiévale du jour, histoire de rester dans le thème, puis on se retrouve dans quelques minutes pour la suite de cette émission.
Voilà, Quartier Libre, un petit retour au Moyen-Âge en musique. Trois questions.
Ah bon ?
Quartier Libre, le retour sur Fréquencié. Voilà, on retrouve Enzo, Gabriel, Lucie, Lince, Étienne, Emmanuel pour cette troisième émission consacrée à Sainte-Suzanne. Aujourd'hui, la ville, enfin les villes médiévales. Emmanuel, voilà, si tu veux bien reprendre la parole et poser de nouveau des questions à ces jeunes qui ont visité Sainte-Suzanne, donc ils vont tout nous raconter aujourd'hui, on va tout savoir.
Moi j'aimerais déjà savoir si vous avez trouvé quelques similitudes entre la ville de Sainte-Suzanne que vous avez vue de vos propres yeux et la ville médiévale que vous avez étudiée. Est-ce que vous pouvez voir quelques rapprochements? Est-ce que dans les cours on voit bien ce qui se passe à Sainte-Suzanne ou pas?
Bah, comme Achille l'a dit tout à l'heure, on retrouve comme les bâtiments, la cour, le donjon, et puis tous les autres qu'il a dit.
Les remparts sont encore là ?
Oui, mais il y a des gens, quand on a fait la visite, qui sont venus les réparer, parce que peut-être qu'ils étaient en mauvais état, on ne savait pas trop.
Ils sont plutôt jeunes.
Oui, c'est un petit peu ancien tout ça déjà.
La ville médiévale était plus petite que celle de Sainte-Suzanne.
Ouais. Et j'avais une question justement par rapport à ça. Est-ce que vous avez eu l'occasion aussi de visiter le château de Sillé?
Oui.
Ouais. Non.
Oui, je l'ai vu.
Non, mais peut-être hors de l'école, mais peut-être que vous êtes promené à l'intérieur. Est-ce que ça ressemble à Sainte-Suzanne ou c'est différent?
Pas
ou
du tout.
Des choses. Oui, vas-y.
Pas du tout.
Ah ben pourquoi pas du tout?
Parce que déjà le château de Sainte-Suzanne, il est plus grand.
Ouais.
Mais après, par contre, le château de Sillé, il est mieux conservé.
Mmh. Alors, il y avait Lindsay qui voulait dire quelque chose. Ah, elle dit la même chose. Et est-ce que vous savez qu'à Sillé, il y a aussi un autre château? Ah, près du lac.
Ah oui, le lac.
Est-ce que vous avez entendu parler de ça?
Non.
Un château carolingien. Enfin, les ruines d'un château.
Les ruines, parce qu'il est bien caché, ouais. Il n'en reste plus grand-chose, et malheureusement, on ne peut pas y rentrer, donc on ne voit que l'extérieur.
Alors, carolingien, est-ce que vous savez quelle époque ça... Tiens, Lindsay, vas-y.
Je crois que c'était à l'époque de Charlemagne, mais je ne suis pas sûre.
C'est ça, c'est Charlemagne, c'est vers l'an 800, donc un petit peu avant la période du Moyen-Âge. C'est encore plus ancien. Mais près du lac à Sillé, il y a ce genre de ruines... qu'on peut voir lorsqu'on est dans un chemin, mais on peut pas rentrer, par contre.
En fait, il est sur le côté gauche de la plage. Quand on est sur la plage, on voit beaucoup de végétation qui remonte, qui recouvre des murs.
Ah oui.
Donc ça passe un peu inaperçu, parce que c'est vrai qu'il n'est pas très très mis en valeur, mais c'est des ruines carolingiennes.
Et voilà.
Mmh. Oh, surprise. Et on m'a parlé d'eau tout à l'heure. Est-ce que Sainte-Suzanne, il y a de l'eau près, pas loin, enfin...
Oui. C'est... Déjà, le château, il a été fabriqué sur une colline, mais si on voit au pied de la colline, il y a par exemple un moulin, et il est alimenté par...
Par la rivière.
Une rivière, oui.
D'ailleurs, à propos de moulins, là, vous ne m'aviez pas parlé de moulins aujourd'hui, alors que je pense que dans toutes les villes médiévales, on devait trouver ça, non?
Bah oui. Pour, par exemple,
ça servait à
pour la farine, par exemple. Ou pour le blé, à piler des aliments, plutôt des céréales.
Plutôt des céréales, faire la farine. Et c'était donc le seigneur qui mettait à disposition le moulin pour que les paysans locaux puissent faire... leur farine, et puis après je crois qu'il y avait autre chose aussi qui permettait de cuire le pain
dans les fours.
Les fours.
Est-ce que dans la ville médiévale, que vous avez peut-être vu à Sainte-Suzanne, mais est-ce que vous avez appris aussi qu'il y avait des... On vous a parlé de commerce ou de marché, de lieux où on pouvait acheter et vendre. Est-ce qu'on trouvait ça dans les villes médiévales du Moyen-Âge, Lucille?
Oui, il y avait des petites boutiques. Au rez-de-chaussée, il y avait souvent les petites boutiques, les marchands et les troubadours. Et en haut, au premier étage, il y avait les habitations.
Ok. Et Emmanuel ?
Eh bien, je crois qu'on va commencer à parler un petit peu du château fort maintenant. Est-ce que quelqu'un aurait des informations sur comment est composé un château fort ?
D'abord...
Rapproche-toi un petit peu pour parler.
Alors, d'abord, il y a les douves. Et au-dessus des douves, en général, il y a un pont-levis pour pouvoir accéder à la cour du château. Mais après les douves, il y a la muraille. Après, il y a la cour. Et dans la cour, la plus haute, il y a la tour. Ça s'appelle le donjon. Mmh. C'est une très haute.
Autre chose à ajouter par rapport à ces éléments du château, Lucille?
Dans la cour, souvent, il y avait des puits.
Oui.
Et des grands arbres.
Alors Étienne aussi voulait ajouter quelque chose tout à l'heure, il voulait prendre la parole, vas-y Étienne.
Bah, il y avait aussi des dans les châteaux forts, il y avait aussi des gardes.
Oui, ça c'est, il y avait des personnels, oui, il y avait des gens qui gardaient les murailles, j'imagine.
Mais des archers, je veux dire.
Des archers, ouais.
Ceux qui jetaient les trucs pour ralentir les ennemis.
Ouais. Comment on entrait par la porte? On a parlé du pont-levis. C'était quoi qui fermait le château?
C'était justement les, comme il a dit Étienne, les archers.
Oui, non, mais je veux dire comment.
Avec des chaînes en fait. Et remonter le pont-levis.
Ouais. Il y avait une porte aussi, non?
Oui.
Ouais.
Il y avait une porte en forme, on va dire
une grande porte.
Une porte, oui, en voilà. Bois, une porte en fer, une porte comment, Lucille?
C'était une porte en bois.
Ouais.
Dans certains châteaux, c'était le pont-levis servait et de porte et de pont pour faire passer.
D'accord.
Et à Sainte-Suzanne, par contre, il y avait le pont-levis et la porte.
Gabriel, qu'on n'a pas beaucoup entendu.
Je crois aussi dans certaines villes médiévales, non seulement il y avait le pont-levis, mais derrière il y avait aussi la herse.
Ouais, aussi une herse. Oui. Alors la herse, vous savez un petit peu ce que c'est?
Oui, c'est une, grille.
Une grille, ouais, qui descendait avec un système.
Ça
de,
fait deux
de
obstacles.
Chaînes. Alors, l'INSEE. Hop.
Et pour le château fort, en fait, il y avait trois usages. Il y avait les habitations pour le seigneur ou le roi. Il y avait les moyens de défense, au cas où qu'il y ait des ennemis qui arrivent et tout ça, pour qu'ils puissent s'y réfugier. Et il y avait l'architecture symbolique pour le château. Le seigneur rappelait à la population son rôle, ses droits et sa puissance envers le peuple.
Alors, c'est Achille qui connaît encore vraiment beaucoup de choses là-dessus.
Aussi, généralement, il y avait deux cours. La cour, comme Lucie l'a dit, le puits, tout ça. Mais il y avait une deuxième cour qui était réservée au seigneur et sa famille.
D'accord. Mmh. Et Emmanuel, peut-être la question suivante?
Alors, on n'a pas fini, en fait. Je crois qu'il y a Étienne qui avait quelque chose à nous dire aussi sur l'évolution du château fort, au fil des ans.
Leur architecture a beaucoup évolué au fil des siècles, du 9e au 10e siècle. C'est en général une grande tour en bois. Ou comme le donjon et une basse-cour. Le tout est protégé pour
une... Rapproche-toi pour parler, parce que sinon on va pas t'entendre.
Le tout est protégé par une palissade en bois, en fossé.
Et une petite question que je vais vous poser. Après le Moyen-Âge, c'était quoi la période qui est venue après le Moyen-Âge, Enzo?
C'est Gilles.
Ah, non, c'est quoi?
C'est Gilles.
Non. La période qui vient après le Moyen-Âge dans l'histoire, on l'appelle comment?
Les temps modernes.
Eh non.
Il y a quelque chose avant.
Il y a quelque chose avant qui est très important, parce que tu parles de l'évolution du château, mais... Oui,
La Renaissance.
La Renaissance, voilà. Et c'est vrai qu'à partir de la Renaissance, les châteaux vont changer. Les châteaux... Et la Renaissance, c'est la période aussi où on invente la poudre à canon, etc. Donc forcément, les murailles vont beaucoup moins protéger les châteaux... ce qui fait que les châteaux vont devenir plus des lieux d'habitation, de pouvoir, et moins un lieu de défense à partir de la Renaissance. Est-ce que vous avez des idées, enfin des connaissances, des noms de châteaux de Renaissance qui vous viennent en France?
Il y en a un qui est célèbre.
Célèbre. Vas-y.
Versailles.
Ah non.
Si Versailles m'était compté, il ne serait pas renaissant.
Alors, pas Versailles justement. Moi, je pensais à des châteaux sur la Loire. On n'est pas très loin de la Loire.
Ah
oui.
Chambord, non?
Chambord, voilà le château de la Renaissance.
Je visite.
Voilà, Chambord qui se visite, et puis il y en a plein d'autres. Il y a Chenonceau, il y en a tout un tas des châteaux de François Ier, par exemple.
Mais on est sur une région particulièrement riche en châteaux de l'époque, justement. Alors on a un petit peu fait le tour, je pense, de ce château fort et de cette ville médiévale. Est-ce qu'on retrouve quelques éléments du château fort à Sainte-Suzanne? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous parle? Est-ce qu'on trouve un pont-levis? Est-ce qu'il y a des douves? Est-ce qu'il y a...
Oui, il y avait le pont-levis. Il y avait aussi le logis, le donjon, un morceau de rempart. Il y avait le grenier à sel... La tour de guet, le moulin, et après ça a été rénové.
Donc on retrouve beaucoup d'éléments de la ville en elle-même et beaucoup d'éléments du château fort.
Oui, voilà.
Est-ce que, alors une question que je me suis posée, est-ce qu'à Sainte-Suzanne, puisque visiblement le château a quand même beaucoup été retravaillé, remodelé. Est-ce qu'il y a des maquettes ou des plans du château ancien qui existent ou pas? Est-ce que vous avez vu ça, Sainte-Suzanne?
Non.
Non, on n'a pas vu.
Oui, Lucille.
À l'intérieur du logis, qui s'est transformé en musée,
ouais.
Il y a une maquette avec le château comme il était avant.
D'accord. Et ça a beaucoup changé, vraiment?
Oui.
Ouais.
Pas mal, oui.
Emmanuel?
Je pense qu'on va pouvoir écouter maintenant l'interview. Alors malheureusement, je n'ai pas de nom à vous proposer parce que ce n'est pas moi qui l'ai enregistré et notre collègue documentaliste n'est pas là. Mais je pense qu'il va être signalé à l'intérieur de l'interview. Voilà. Donc je vous laisse...
Et donc c'est sur la ville médiévale avec un des conservateurs, je suppose, du château de Sainte-Suzanne. Voilà, sur Fréquence Scie, on écoute ça tout de suite.
Bonjour Monsieur Foineau. Alors je crois que vous travaillez au château de Sainte-Suzanne. Est-ce que vous pouvez déjà dans un premier temps nous présenter un peu votre métier ?
Oui, effectivement, je suis à la fois médiateur ici au château de Sainte-Suzanne, responsable des publics. Ma tâche est d'accueillir un maximum de publics, que ce soit public scolaire, public jeune public, public plus cultivé, de façon à offrir à ses visiteurs un regard sur le château, qui puissent ainsi découvrir à la fois les formes de vie dans la cour d'un château, mais également traduire le château en des termes plus contemporains. Par exemple, on organise un marché du livre du château de Sainte-Suzanne, ou alors de nombreuses animations autour des savoir-faire et démonstrations sont proposées.
Peut-on dire que Sainte-Suzanne est une ville typique du Moyen-Âge ?
Oui, alors en fait, la question c'est oui. Au Moyen-Âge, Sainte-Suzanne est une ville. Aujourd'hui, en 2018, Sainte-Suzanne est un village. La ville au Moyen-Âge se définit autour des échanges commerciaux qui se déroulent au cœur de son territoire. Et surtout, par les limites de ce territoire urbain par rapport à la campagne, c'est-à-dire les remparts. Ce qui définit une ville au Moyen-Âge, c'est la présence de remparts, qu'elles soient de terre, qu'elle soit de bois, des palissades, ou que ce soit de pierre, des murailles. Et en ceci, Sainte-Suzanne au Moyen-Âge est une ville. Et les villes peuvent naître soit autour d'un cimetière, soit autour d'une église, soit autour d'un château. Alors dans le sud de la France, c'est surtout autour des châteaux que les villes se construisent. Dans l'ouest de la France, c'est surtout autour des églises, pour les petites communes. Mais pour les grosses communes, en Mayenne, puisque nous sommes en Mayenne, les grosses communes naissent autour d'un château. D'ailleurs, il suffit de faire attention, par exemple, à la troisième ville du département, Château-Gontier. Le château construit par Gontier qui va donner naissance à la ville Château-Gontier. Même chose pour, en Sarthe, la Ferté-Bernard. Ferté, du latin firmitas, la forteresse de Bernard qui va donner naissance à la ville. En fait, un premier donjon, un premier castrum, c'est le nom savant pour dire château au Moyen-Âge, va attirer la population, puisqu'elle recherche, parfois, en situation de conflit, de menace, de guerre, la sécurité. Et ainsi, la population va venir s'abriter dans le château en cas de guerre. Puis petit à petit, la population va choisir de s'installer non plus dans le château, mais juste à côté. Donc deux, trois maisons vont se multiplier pour former une agglomération. Et cette agglomération, à son tour, va recevoir après le château des fortifications urbaines. Donc on revient à l'idée de définition d'une ville, une agglomération protégée par les remparts. Et ainsi, les habitants de la zone protégée par les remparts, c'est le bourg. Donc ce sont les bourgeois. Et ainsi, au Moyen-Âge, il faut définir le château, la ville, avec une dimension économique, et en dehors du bourg, c'est les faubourgs, où sont concentrées le plus souvent les activités semi-industrielles, c'est-à-dire des moulins, le long de la rivière.
Est-ce que le paysage entourant la ville de Sainte-Suzanne, aujourd'hui, à notre époque, est-ce qu'il a une particularité ? Est-ce qu'il rappelle, par exemple, le Moyen-Âge ? Est-ce qu'on en voit encore des traces dans ce paysage entourant Sainte-Suzanne ?
Oui, alors effectivement, la spécificité du paysage, la topographie, ici à Sainte-Suzanne, c'est que le château est vraiment construit sur un éperon rocheux à 70 mètres d'altitude par rapport à la rivière Lerve qui coule en contrebas. Donc on note bien que le château, il joue un rôle de gestion de l'ensemble du territoire qui l'environne. Donc il y a une dimension administrative du château qui gère le paysage qui est autour de ce monument et qui est au Moyen-Âge, dans les textes, divisé entre la guerre et le saltus. La guerre, en fait, c'est l'agriculture, c'est les terres. Et saltus, c'est la forêt. Et souvent, à partir du moment où on va construire ici le donjon, on va accueillir donc une population plus nombreuse, qui correspond au XIe, XIIe siècle, à ce qu'on appelait autrefois les grands défrichements, c'est-à-dire qu'il faut nourrir la population. Donc, on va empiéter sur la forêt pour pouvoir gagner des terres cultivées. Alors, et là, on le voit très très bien ici dans la campagne, au-dessus des remparts du château. La forêt actuelle, c'est la forêt dite de la Charnie. Elle allait autrefois jusqu'au Mans. Elle a été séparée en deux à hauteur de Saint-Nidorc, entre la Grande Charnie près du Mans et la Petite Charnie ici près de Sainte-Suzanne. Mais c'est la forêt telle qu'on pouvait la découvrir au Moyen-Âge. Et cette forêt a été petit à petit défrichée pour réaliser donc des champs et ainsi nourrir la population de Sainte-Suzanne. Alors c'est intéressant parce qu'on voit très très bien voilà, des parcelles bien délimitées dans cette forêt. Et on le sait que c'est du XIe, XIIe siècle grâce à la toponymie, c'est-à-dire le nom du champ ou de la ferme qui est associée au champ. Un exemple, mais tout à fait au hasard, hein, n'est-ce pas? C'est par exemple Martinière. C'est tout simplement le champ qui a été défriché par la famille Martin. Voilà. Donc, à la fois donc les champs et les forêts qui jouent un rôle très important dans l'équilibre entre paysans et également seigneurs. Le seigneur, par exemple, offre ce qu'on appelle des droits de pacage, c'est-à-dire que les paysans ont le droit d'amener à l'automne leurs cochons qui vont se nourrir des glands. Ils peuvent également se rendre dans la forêt pour aller chercher l'aliment sucré du Moyen-Âge, le miel, par exemple. Donc, autrement dit, on a bien ici l'idée de composantes entre eux. Les terres cultivées, la guerre, et la forêt, en l'occurrence, saltus. Et aujourd'hui, l'intérêt, c'est que la déclivité et le vallonnement du territoire a permis de garder le caractère bocager du site. Autrement dit, des champs qui sont encore entourés, ceinturés de haies, permettant l'élevage.
Est-ce que le château de Sainte-Suzanne, est-ce qu'il avait plusieurs fonctions à l'époque médiévale?
Alors, le château de Sainte-Suzanne, comme tous les autres châteaux au Moyen-Âge, l'écueil, ça serait de l'associer essentiellement à une dimension militaire. Un château, ça ne sert pas qu'à faire la guerre. Pourtant, c'est ce qu'on voit en premier lorsqu'on visite un site à l'occasion des journées du patrimoine ou autres. Des remparts, des tours, des archères, des meurtrières, des donjons, des ponts-levis. Enfin, la liste serait longue. Effectivement, cette dimension militaire a pour but de résister à un siège, éventuellement, mais il y a une volonté manifestement ostentatoire. Il faut faire peur, il faut essayer de faire réfléchir l'assiégeant éventuellement. Si l'assiégeant n'est pas suffisamment nombreux, s'il estime qu'il n'a pas suffisamment de force pour attaquer un donjon ou un château suffisamment puissant, souvent il l'abandonne et il va tenter de prendre un château un peu moins puissant. Donc cette dimension ostentatoire, se lie aussi dans le caractère militaire du château. Donc un château pour se défendre en cas de guerre, un château pour montrer la puissance du seigneur par les remparts, mais aussi souvent par un donjon le plus haut possible. Alors je vais me permettre une analogie, peut-être pas tout à fait exacte, mais au moins qui peut être très claire. C'est les gratte-ciels de Chicago ou autres. L'idée, c'est de construire le plus haut pour montrer son pouvoir. À l'époque médiévale, construire un donjon le plus haut possible, il y a cette idée que on monte un statut social suffisamment important parce qu'il a nécessité plus d'argent pour construire un donjon plus haut possible. Et ainsi, le donjon, on le voit de loin, donc tout de suite, que ça soit pour les ennemis, mais également pour le paysan. Ça marque bien, au travers du donjon, le seigneur qui contrôle et qui maîtrise les terres. On disait autrefois, c'est plus tout à fait juste, mais ça le mérite d'être clair, que lorsqu'on est au-dessus du donjon, on contrôle les terres que l'on voit. Donc plus le donjon est haut, plus on le voit. Donc dimension militaire, dimension ostentatoire, et puis il faut préciser évidemment que le plus souvent un château vit en période de paix qu'en période de guerre. Hein, notamment on faisait pas la guerre l'hiver parce que les conditions climatiques n'étaient pas réunies. Et souvent, le seigneur réunissait ses vassaux au printemps pour un premier conseil de guerre et ensuite ils allaient faire la guerre. Quand c'était prévu, quand il y avait des campagnes. Donc souvent, eh ben, à défaut de guerre, eh bien, l'intérieur d'une cour de château fort est organisé comme un petit village. Il faut imaginer des poules, des cochons qui vivent dans la cour. Ici, un peu plus loin, le forgeron qui va réparer les armes, qui va restaurer aussi peut-être les cercles des tonneaux de vin. Ça peut être aussi réparer les fers à chevaux. Un peu plus loin, éventuellement, le boulanger qui prépare le pain, et puis les dames, les serviteurs qui aident au quotidien le seigneur et sa famille, la familia. Et puis un petit peu plus loin aussi, peut-être que on peut découvrir le petit chapelain qui est financé spécialement par le seigneur pour dire des messes tout au long de l'année et célébrer, pourquoi pas, le mariage de la fille du seigneur. Donc tout un monde vivant, actif, dans la cour du château.
Merci beaucoup, Monsieur Foineau, d'avoir répondu à toutes nos questions dans ce beau château de Sainte-Suzanne. Est-ce que, pour un mot de conclusion, vous pouvez rappeler à nos auditeurs quand est-ce qu'ils peuvent venir visiter le château de Sainte-Suzanne ?
Oui, alors on accueille effectivement les auditeurs de Fréquencier avec grand plaisir tous les jours au château de Sainte-Suzanne. Donc de 9h45 à 12h30 et de 13h30 jusqu'à 17h15. Nous sommes ouverts toute l'année, sauf pendant la période hivernale qui va du 15 décembre au 5 janvier. Et on s'attache à programmer de nombreuses activités tout au long de l'année, et pas seulement pour les visiteurs de l'été, mais également pour la population locale. Je les invite à aller sur le site internet, par exemple, du château de Sainte-Suzanne.fr pour découvrir nos activités. Il faut imaginer qu'on a à peu près 150 animations différentes chaque année. Donc, il se passe toujours quelque chose au château de Sainte-Suzanne. Donc, on aurait un grand plaisir à les accueillir ici.
Très bien, c'est dit. Nous mettrons sur la page de Fréquencier le lien vers le site du château de Sainte-Suzanne. Merci beaucoup encore et à bientôt.
Oui, au revoir.
Un quartier libre, eh bien, avec les élèves de 5e aujourd'hui. On vient d'entendre une interview réalisée à Sainte-Suzanne lorsqu'ils sont allés, justement, ces jeunes, visiter la ville. Et puis, l'émission se termine avec Enzo, Gabriel, Lucie, Lince, Étienne, Achille. Et puis, Emmanuel qui va poser la dernière question, peut-être, pour conclure.
L'ultime question, en fait. J'aimerais bien savoir ce que vous avez pensé de votre visite là-bas. Et est-ce que vous avez aimé les ateliers que vous y avez faits ? Quelle est votre impression générale de cette visite ?
Alors, moi, j'ai bien aimé quand on a fait la pige. Une pige, c'est une règle du Moyen-Âge avec les mesures, le pouce, le coude, la paume et les pieds. Voilà.
Alors moi j'ai bien aimé les activités, puis j'ai aussi aimé apprendre des choses sur la vie médiévale, et puis l'activité que j'ai bien aimé c'est les échafaudages, où on devait enfoncer des rondins de bois, puis mettre des planches par-dessus pour faire justement les échafaudages et pour construire les murs encore plus haut.
Moi ce que j'ai préféré c'est quand on a fait un mur de pierre avec mon groupe, on a mélangé de la chaux et des pierres, et... la chaux, c'est un mélange d'eau, de sable et de poudre de chaux.
Moi, j'ai bien aimé quand on a fait une recherche dans la cour du château sur les objets qui avaient déjà été retrouvés auparavant. Et puis après, on a dû faire un exposé. J'ai trouvé ça sympa.
Alors ?
Moi, j'ai bien aimé quand on a cassé des vitraux avec une forme de couteau, mais au bout, il y avait du diamant. Et puis après, on mettait
Casser des vitraux ?
Mais non.
Non, découpé. Bah oui, découpé.
Ah oui, parce que casser des vitraux.
Oui. Ça, c'était pas sympa.
Oui. Découpé comment alors, avec quoi?
Bah avec un. En forme de couteau, mais pas vraiment. Mais au bout, il y avait du diamant.
Et, Il y a quelqu'un qui sait comment ça s'appelle.
Bah
là.
Oui, parce que moi, je l'avais fait. C'était en fait. C'était du verre, mais teinté. Et en fait, avec un couteau, avec une lame de diamant, et ben on les découpait. Et avec de l'aluminium, et ben on pouvait les assembler.
Et donc toi, Achille, qu'est-ce que tu as préféré là-bas?
Bah, faire ça.
Faire ça aussi. D'accord. Eh bien, en tout cas, je vous remercie pour avoir participé à cette émission. C'était donc la troisième émission sur ce thème de Sainte-Suzanne. Il en restera deux ou trois.
Si trois, je...
trois voilà. Donc, les auditeurs restaient à l'écoute, justement, de cette histoire du Moyen-Âge, qui est toujours très intéressante. En tout cas, je remercie Enzo, Gabriel, Lucie, Lindsay, Étienne, Achille. Au revoir. À bientôt, peut-être, pour une autre émission sur autre chose.
Au revoir.
Et puis, merci, Emmanuel, d'avoir... contribuer à animer cette émission.
Avec plaisir, à bientôt.
Voilà, à bientôt.